Ouais.
L'anglais.
L'anglais, l'anglais.
Quelle évolution pour le français ? La langue française est-elle en danger ? Pour y répondre, nous avons Jean Pruvot, lexicologue, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages sur la langue française et vice-président de l'association Défense de la langue française au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
La langue française, est-ce qu'elle est en danger ?
Alors, je crois qu'elle est toujours, si vous voulez, à observer. Il faut y être attentif, il faut être vigilant. En danger, c'est un grand mot. On n'est pas en danger de mort, c'est une certitude. Mais en même temps, bon, il faut être vigilant et puis essayer qu'elle soit la plus belle possible, la plus expressive, sans être non plus un conservateur effréné qui veut tout garder depuis le Moyen-Âge.
Et on écrit de plus en plus mal le français avec les abréviations utilisées pour les SMS notamment.
Oui, enfin, je crois qu'il y a quand même d'un côté ce qui relève des réseaux, ce qui relève des SMS, ce qui relève donc de la communication très rapide entre jeunes par exemple, et puis de l'autre côté de l'écriture, j'allais dire, plus attentive, sérieuse, amoureuse, où là, bon, il y a quand même un effort qui est fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas assimiler les deux, et il faut simplement essayer qu'il y ait quand même quelque chose qui soit correct, compréhensible, et que lorsqu'on veut bien écrire, on soit capable de bien écrire. C'est-à-dire qu'on ait en tête, je sais pas, les règles des participes passés, les différentes... points d'attention à avoir, et notamment sur le pluriel et sur l'orthographe d'usage. Alors là, c'est vrai qu'il y a peut-être quand même de gros efforts à faire.
Et vous avez écrit, pour en finir avec les 100 fautes de français qui nous agacent aux éditions du Figaro littéraire en 2022, quelles sont les erreurs les plus courantes de français ?
Alors, il y en a une déjà orale qui m'énerve un peu, mais ça va pas plus loin. Mais enfin, je la repère à chaque fois. Vous savez, on est passé des francs aux euros. Alors, je dis bien aux euros, je dis pas aux euros. Et j'entends tout le temps 300 euros, 2500 euros, 180 euros. Et je me dis, là, on a affaire à des personnes qui connaissent pas la règle qui fait que 80, il y a un S. Et il ne dirait pas « j'ai 80 ans ». Il dirait « j'ai 80 ans oui. ». Donc là, pour moi, c'est une négligence que j'entends chez des hommes politiques, chez des journalistes. Et chaque fois qu'un journaliste fait la bonne liaison, je me dis « ah ». C'est formidable. Lui connaît les règles qui correspondent et ça ne heurte pas les oreilles de ceux qui connaissent l'orthographe. Bon, c'est pas grand-chose, hein, parce que c'est vraiment un détail et beaucoup de gens le font. Mais à ce moment-là, il faut mettre un H à euro, ce sera plus simple.
Oui.
Mais bon, on n'y est pas. Alors, dans les autres fautes, il y a, si vous voulez, les fautes qui sont normales sur des mots difficile. Et ce qui importe, je crois, c'est d'avoir les outils, de savoir qu'il y a des dictionnaires qui nous permettent de vérifier l'orthographe. Et là, on a des outils formidables, le dictionnaire de l'Académie française qui a 60 000 mots, qui est quasiment fini, et qui est quand même vraiment d'une grande aide, avec des définitions très simples. On a le trésor de la langue française, on a le petit Larousse, le petit Robert. Donc on a les outils. Je pense que quand j'évoque la vigilance, c'est de se dire, tiens, là, faut peut-être que je vérifie. Moi, le premier, il y a des mots que... Si tout de suite, vous me demandez d'écrire immarcessible, qui est un piège dans les concours d'orthographe, je vais hésiter. Ben, si j'ai à l'écrire, j'irai vérifier dans un dictionnaire. Alors, c'est un peu ça, vous savez, la devise de défense de la langue française, c'est, dans le fond, ni purisme, ni laxisme, mais c'est ça, c'est d'avoir un peu de bon sens. Et puis, le plaisir de communiquer avec... quand même une langue qu'on comprend bien et qui soit élégante, si possible.
Il y a de plus en plus de mots anglais dans la langue française ?
Alors oui, ça c'est un problème. Il y en a toujours eu, c'est tout à fait normal qu'il y ait des mots qui passent d'une langue à l'autre. C'est normal, je ne sais pas, le week-end ne pose pas de problème, le rugby non plus, le football non plus, et même quelques autres formules anglaises qui entrent. Mais vous avez, je ne sais pas... des expressions du style « l'équi-coaching va améliorer vos soft skills », là, je me dis, ma grand-mère ne comprendrait pas. Moi-même, je ne sais pas trop ce que sont les soft skills. Là, on exagère. Oui. Là, on est un petit peu comme sous Molière, au XVIIe siècle, il y avait ceux qui abusaient du latin, les fameux diafoirus, les médecins qui mettaient un mot latin tous les 5 minutes. Là, on fait la même chose, on est aussi ridicule en mettant un mot anglais constamment. Ça a quelque chose de fatigant. Et surtout, ça casse, si vous voulez, cette élégance de la langue française. Bon, alors maintenant, si c'est à titre plaisant, ça peut arriver aussi.
Et le franglais, il prend de l'importance ?
Oui, je pense que... Alors, je crois qu'il est, grandissant, foisonnant, et d'une certaine manière en train de polluer, effectivement, peu loin, dans certains milieux, hein, dans les milieux de la communication. Là, il y a quelque chose qui est quand même agaçant, et je pense que c'est perdant. Toutes ces publicités qui sont faites en anglais ont quelque chose qui heurte 80% des gens, c'est que 70% et même davantage des gens sont agacés par les mots anglais. Donc on devrait le comprendre. Et ce franglais-là, j'espère, au saut du bon sens, il va disparaître. Faut l'espérer. Il n'y a pas péril dans la demeure si on prend conscience que ce n'est pas gagnant et qu'il vaudrait mieux passer à autre chose et à d'autres mots.
Et la francisation, est-ce qu'elle est un danger pour la langue française ?
La francisation ?
Oui, des mots. En fait, on francise de plus en plus certains mots pour ne pas donner les termes anglais.
Ah ben non, au contraire. Moi, je sais pas, entre open space et air ouverte, je vois pas où est le danger de air ouverte. On a toute une série de mots. Je sais pas, on a par exemple des mots comme... je dirais même que c'est l'inverse. Parfois, on ne sait plus quel est le mot français. Par exemple, on vous demande... il y a safe vedette, alors... Réserver la date, c'est quand même pas très compliqué. Ouais. Vous avez... je trouve même plus l'expression en anglais, tellement la date butoir me revient. La deadline, oui. Bon, si vous voulez, date butoir, en quoi c'est un problème. Dès qu'on francise et que tout le monde comprend, parce que ce sont des mots qui sont, transparents, on ne risque strictement rien. Je pense qu'au contraire, on est tout à fait... gagnant, le best-of, vous savez, ça peut être remplacé par beaucoup de mots. Hein.
Oui.
Alors, c'est vrai qu'on a eu la playlist, on a eu le hit-parade, on a eu le making-of, mais enfin, le florilège, le meilleur d'eux, tout ça n'est pas mal non plus. Mmh. Vous voyez comment spoiler, par exemple, a été...
Oui.
On a proposé, avec un travail considérable que fait la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, qu'il ne faut jamais oublier, spoiler, ils ont proposé « divulgâcher », c'est en train de s'installer. De toute façon, il y avait divulguer, dévoiler la fin. Bon, divulgâcher, c'est presque plaisant. Et ça passe. Je ne pense pas que ce soit un danger. Je pense au contraire que c'est un effort qui est constructif. Et là, je dirais que les institutions, et notamment la Délégation Générale Française, fait bien son travail. Vous voyez comment on dit plutôt un chariot qu'un caddie. C'est pas très grave de dire un caddie. Mais un chariot, tout le monde comprend. Donc là, il y a des commissions qui se réunissent. Frédéric Vitou de l'Académie française est le président de ces commissions d'enrichissement de la langue française. Et là, 80% du travail consiste à traduire des mots anglais qu'on ne comprend pas en mots français. Donc, un groupe de réflexion, c'est quand même mieux qu'un think tank que ma grand-mère n'aurait pas compris. Donc il y a là, je dirais, un peu de bon sens à mettre en œuvre. Bon, et que nos institutions y travaillent, c'est une bonne chose. Les dictionnaires font un bon travail aussi sur le sujet.
Mais alors, pourquoi on a tendance à utiliser plus les termes anglais que français, même s'ils sont assez compréhensibles? Est-ce que c'est un effet de mode?
Oui, il y a un effet de mode, exactement, si vous voulez, comme au XVIIe siècle, il était de bon ton de sortir des mots latins, qui étaient d'ailleurs largement déformés souvent. Donc c'est un effet de mode, et puis c'est plus grave, c'est un asservissement inconscient à une puissance dominante que représentent les États-Unis, l'économie américaine, et les Américains sont évidemment ravis de notre franglais, ils sont ravis d'installer les mots. Eux ne font pas d'efforts pour le français, ils ont accueilli les mots français, puisqu'on sait que l'anglais c'est 65% de mots français. Mais ça s'est fait historiquement à partir de 1066, bataille d'Hastings, et le fait qu'on ait eu notre premier roi, Guillaume le Conquérant, et qui s'appelait avant plutôt Guillaume le Bâtard, et qui installait, dans le fond, indirectement, la puissance économique qu'était l'Europe et la France à ce moment-là. Bon, et ben là, on subit l'inverse, et je pense qu'il faut réagir, et sans guerre, sans haine, mais simplement valorisant notre langue. Ça veut pas dire que... Vous savez, j'aime beaucoup l'anglais, j'aime beaucoup les chansons anglaises, j'en chante, j'en joue à la guitare, ça m'empêche pas d'être ravi d'écouter Brassens, Jacques Brel, ou Alain Souchon, ou d'autres chanteurs contemporains. Donc je pense que la diversité passe par la bonne connaissance de sa langue. Vous savez, dire « coach », c'est bien, mais si j'ai oublié qu'existait instructeur, moniteur, accompagnateur, guide, conseiller, répétiteur, mentor, alors c'est une pauvreté. Quand on ne trouve plus le mot français à un mot anglais qui s'est installé alors qu'il y a beaucoup de mots donc français qui correspondent, à ce moment-là, c'est une pauvreté, c'est un appauvrissement, et c'est surtout pas le travail qu'il faut faire avec nos élèves, parce que je crois tout commence aussi dans nos classes, sans repousser, évidemment, le modernisme, mais il est montré là. Le foisonnement d'une belle langue.
Et à l'inverse, hein, il y a beaucoup de mots français qui sont utilisés.
Alors oui, il y a bon nombre de mots français qui sont passés, évidemment, dans les autres pays. J'en avais fait toute une liste qui permet de se repérer, finalement, dans la variété de la France. Alors il y a les mots, évidemment, de la langue arabe, comme algèbre, qui sont passés dans la langue française. Dans la langue française, on va avoir des mots comme banane, qui est d'une langue bantoue, comme chérubin, qui est de l'hébreu, comme désinvolte, qui est de l'italien, etc. Façade, aussi de l'italien, oui. Geyser, de l'islandais. Et inversement, en anglais, on aura beaucoup de mots français. Je ne sais pas, je prends un mot comme poultry, les Anglais ne savent pas toujours, c'est la pouletterie. Quand vous avez pantry, c'est la panetterie. Et le mot anglais typique, c'est vraiment très anglais, si je dis je suis very content, mais d'une certaine manière, very, c'est un mot français, ça vient de verre, c'est l'équivalent de vraiment, vraiment, very, c'est ça. Donc,
il y a aussi
oui, c'est normal qu'il y ait un échange entre les langues, c'est normal. Après, qu'on oublie la richesse de la nôtre au profit d'un pouvoir économique très fort que représentent les États-Unis, ça c'est dangereux.
Il y a des mots comme entrepreneur qui sont très utilisés là-bas,
oui,
voilà, bah, rendez-vous, comme... fiancé, etc.
Bah, si vous voulez, si je commence à dire les enterpriseurs ou quelque chose de ce type, ça serait quand même un peu ridicule.
Oui.
Donc que ces mots-là puissent être pris dans d'autres langues, pourquoi pas. Je ne serais pas plus content de voir aujourd'hui une masse de mots français, on va dire l'anglais, déformé.
Oui.
J'en suis pas plus content que de voir le globish s'introduire dans nos conversations quand on pourrait s'en passer. Donc, loin de là, la chasse aux mots anglais ou aux mots étrangers, mais vigilance pour garder la variété des mots français qui existent aussi et qui sont pas oubliés.
Vous avez aussi écrit hein, Les mots disparus de Pierre Larousse aux éditions Larousse en 2017. Quels sont les mots français qu'on n'utilise plus ?
Alors, il y a des mots, il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est le mot compotation. Je le cite tout le temps parce que, comme je suis, j'ai longtemps été professeur, j'ai toujours aimé l'enseignement. Les compotations, c'était au Moyen-Âge les bons repas que l'on faisait avec ses élèves. À la fin de l'année, quand ils avaient passé l'examen, reçu ou non.
Des compotations.
Bon, ces moments d'harmonie, bon, je pense que c'est toujours très, très agréable. Donc, tous les mots qui sont comme ça, à l'ancienne, ça donne un peu de charme à notre langue. Ce sont des archaïsmes qu'il ne faut pas perdre. Alors, il y a l'archaïsme qui est rentré quand même dans la langue châtiée, je ne sais pas, cuise. On voit bien que c'est un petit côté humoristique. Je vais prendre, pour vous montrer peut-être la richesse de notre langue, le verbe « chaloir » n'existe plus. Il vient de « chaud », « chaud » lui-même vient de « calor » en latin, et ça a donné l'expression « peu m'en chaud », c'est-à-dire « peu m'importe ». Alors, c'est joli quand vous le dites, il faut l'expliquer si on ne le comprend pas, mais sinon c'est un archaïsme littéraire. Mais ça a donné aussi « chaland ». Le « chaland », c'était celui qui était l'ardent client, donc qui était chaud, bouillant, comme on dirait aujourd'hui, pour acheter quelque chose. Et puis à l'inverse, le non-chaland, celui qui est mou et qui n'est pas vraiment ardent.
Et quels sont les nouveaux mots français ? Parce que vous avez écrit Pierre Larousse du Grand Dictionnaire au Petit Larousse.
Il y en a bon nombre, hein, des mots nouveaux. Moi, en ce moment, j'entends souvent locavore. Hein, manger
locavore,
c'est-à-dire manger, déjeuner, acheter des produits qui sont locaux. Donc ça, je trouve que c'est assez joli comme mot. Alors il y a des mots de la Belgique, par exemple, être narreux, c'est avoir un certain dégoût pour quelque chose. Donc il y a bon nombre de mots étrangers, alors pas étrangers, de la francophonie, qui ont un charme fou et qu'on peut reprendre alors avec bonheur, je dirais. C'est quelque chose que nos dictionnaires, systématiquement, en début d'année, enfin d'année, pas vraiment, c'est souvent au mois de mai-juin, nous offrent avec la liste des nouveaux mots.
Est-ce que l'écriture inclusive, c'est un débat uniquement politique ?
Alors, le problème, c'est qu'on en a fait un débat politique. Et c'est dommage, parce qu'il faudrait être rationnel. On a presque fait ceux qui étaient pour, qui étaient novateurs, ceux qui étaient contre, qui étaient conservateurs. Alors, je trouve ça toujours agaçant. En fait, le mot inclusif, c'est un mot français qui était au début tout simplement le fait d'être inclus dans quelque chose. C'était un mot de la philosophie, de la religion, et ça a été un mot des mathématiques. C'est passé en anglais, et en anglais, ça a eu un sens particulier qui était au début les voyages inclusifs, et on a eu, nous, dans nos dictionnaires français, c'est encore inscrit, du tourisme inclusif. Alors le tourisme inclusif, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, c'était qui payait tout, tout était compris, tout compris en fait, et c'était un anglicisme. Et puis après, les Anglais y ont ajouté une notion d'ouverture dans les écoles pour garçons et filles venant de tout milieu, de tout pays, et même donc, et ça c'est très important pour les enfants handicapés par exemple, c'était inclusive education. Et jusque-là, moi je trouve ça très bien, c'est parfait. Alors si, quand on l'adopte en français, on évoque inclusif dans l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien je suis vraiment à ce moment-là inclusif, bien entendu. Et donc on a comme ça un usage du mot que je trouve pertinent. Après, quand il passe du côté de la langue, on a commencé à dire que inclusif, c'était qui met à égalité dans la grammaire l'homme et la femme. Alors là, ça commence à être compliqué, avec des inventions. Alors toutes et tous, mesdames et messieurs, françaises et français, tout ça c'est aussi inclusif. Pour moi, ça n'est pas un danger pour la langue. C'est parfois un peu long. Bon, parce que quand on dit les enseignants, naguère, c'était enseignante et enseignant. Maintenant, il faut dire les enseignantes et les enseignants. Alors, quand je dis il faut dire, en suivant l'écriture inclusive. Ça ne me perturbe pas trop. C'est qu'une question de longueur. Notre langue est déjà un tiers plus longue que l'anglais. Là, elle va être encore un peu plus. Mais bon, ça ne me choque pas du tout. Mais en revanche, quand on commence à mettre auteur, point, E-U-R, point, I, point, C-E-S, etc. Alors là, on s'en sort plus, c'est illisible, et à mon avis, comme je le dis souvent, on peut être inclusif, mais jusqu'à un certain point, et ce point est vraiment fatigant. Quand on a proposé le YEL, par exemple, quelques-uns y ont vu, dans des communautés que je respecte infiniment, et qui se veulent un peu dans la mouvance LGBTQIA+, eh bien, dans ces communautés-là, sont nés, du côté du Québec, la volonté, les volontés de donner des pronoms personnels. Alors, il y a eu le fameux YEL, qui a fait beaucoup parler de lui. Et là, c'est là où je trouve qu'on manque de réflexion, parce que, selon l'idée que ça va être « et elle » et « il », c'est complètement fou, c'est « il » plus « elle », et c'est le « i » qui est en premier. Quoi qu'on fasse, une langue ne peut pas être comme ce qu'au XVIIe siècle, on appelait le « tout ensemble ». Le « tout ensemble », c'était le fait que quand vous regardez un tableau, un certain nombre de parties peuvent être ratées, mais le « tout ensemble » est beau. Quand vous écoutez de la musique, peut-être que la guitare joue trop fort, peut-être que la basse n'est pas assez forte, peut-être que la batterie, peu importe, si le tout ensemble peut être très beau. Donc le tout ensemble, eh ben, c'est pas possible dans la langue, parce que c'est une syllabe derrière l'autre. On n'a pas un organe phonatoire qui nous permet d'être comme une guitare, faisant des accords et deux sons en même temps. Deux syllabes en même temps, on ne sait pas le faire. Même si on voulait mettre il au-dessus, elle dessous, pour se dire voilà, on est sur la même ligne, mais non, il y en aurait un au-dessus, il y en aurait un au-dessous. Et yel ou elle, c'est pas faisable. Donc, bon, on peut réinventer complètement une langue. Mais alors là, bon, on n'est plus du tout dans un aménagement de la langue française. Et je pense que là, c'est vraiment de l'utopie. Ça ne touche que quelques-uns, très peu.
Eh ben merci, Jean Pruvot, lexicologue et vice-président de l'Association Défense de la Langue Française. Et je rappelle que